Radio Star Bell.
Morning Edition from NPR.
Sí, sí, Santito de House.
Radio Jerusalén, people are
que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et la première escale d'un jour dans le monde nous emmène en Tunisie ce soir. La Tunisie dans la rue à nouveau parce qu'elle voit revenir les Ben Ali, comme on dit, à la faveur d'un nouveau remaniement. Trump saison 2 avec Grégory Phillips comme tous les mercredis. On verra ce que le président américain a laissé derrière lui en quittant l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vous le donne en mille, évidemment, c'est un tweet. Attention, chef-d'œuvre, ou pas loin en tout cas, Eva Béton a vu Faute d'amour, film russe, grand prix du jury à Cannes, film inter aussi, elle vient nous raconter, 18h55. L'édito du journal Le Monde avec Sylvie Kaufmann. Et nous serons quelque part entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais tout de suite, une question. Et si les villes américaines sauvaient les accords de Paris en dépit du président des États-Unis ?
Fabienne Saint-Esse. Un jour dans le monde.
I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris.
Voilà, vous vous en souvenez forcément hein, de cette phrase prononcée par Donald Trump, c'était il y a un peu plus de 3 mois à peine, au moment de son annonce de la sortie de l'accord de Paris sur le climat. Je n'ai pas été élu par les habitants de Paris, mais par ceux de Pittsburgh, disait-il alors. Et puis, depuis, contrairement d'ailleurs à ce qu'on a pu croire à un instant, la position américaine n'a pas varié. Hier, à la tribune de l'ONU, on a entendu surtout Trump promettre de détruire la Corée du Nord, mais pas un mot sur le climat. Ce qu'avait anticipé d'ailleurs le président français, qui lui a rappelé, peut-être que ça vaut mieux en le disant, que l'accord de Paris n'était pas renégociable. Et en même temps, on l'a vu lors de la réunion annuelle des villes engagées pour le climat, c'était juste avant l'Assemblée Générale, on a vu ces villes américaines qui sont entrées en résistance, pour certaines en tout cas, 375 en tout pour l'instant, qui s'engagent à respecter l'accord de Paris. Bonsoir Christian de Pertuis.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, vous êtes fondateur de la chaire économie du climat. Et la question du coup qu'on a envie de se poser, c'est et si ces villes américaines sauvaient la participation des États-Unis à la COP21 en dépit de Trump? C'est peut-être moins simple, mais il y a de l'idée, non?
Il y a une idée évidente, c'est que la position de Trump sur le climat est totalement à contre-sens de tout ce qui se passe dans le monde et aux États-Unis. Qu'est-ce que veut faire Trump ? Tout simplement, il veut mener une politique énergétique qui consiste à valoriser le charbon, le gaz, et s'il reste un petit peu d'énergie disponible, on ira vers les renouvelables. Bon, ceci est complètement à contre-courant, et on voit bien que une grande partie des acteurs territoriaux aux États-Unis ont des pratiques et des politiques complètement différentes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces acteurs ?
Et depuis longtemps d'ailleurs. Hein,
et
par ailleurs, ils n'ont pas attendu la sortie de Trump.
L'engagement des villes américaines sur le climat date des années 80, 90. Et il y a un point très important qu'il faut souligner, c'est que aux États-Unis, vous avez l'État fédéral, vous avez les États et vous avez les villes. Donc je crois que le contre-feu à la politique de Trump, il est à deux niveaux. Il est au niveau des villes et au niveau des États. Mais attention, toutes les villes ne tirent pas dans la même direction. Il faut regarder beaucoup plus finement de quelle ville on parle. En gros, pour faire simple, Trump a été élu grâce aux voix de l'intérieur des États-Unis et toutes les grandes bandes côtières, qu'elles soient à l'ouest, avec la Californie, avec l'Oregon, l'État de Washington, ou à l'est, sont très profondément pro-lutte anti-changement climatique. Et donc, on a une coalition géographique très claire de l'ensemble des acteurs territoriaux, les villes et les États, la Californie, l'État de New York, Los Angeles, en faveur de la décarbonation de l'économie. Et puis, on a des poches de résistance à l'intérieur du pays.
Alors, il s'agit de savoir, en fait, qui est la poche de résistance. Est-ce que les poches de résistance, ce sont ceux qui refusent de décarboner, ou est-ce que la poche de résistance la plus efficace, ce sont ceux sur le côté qui, au contraire, ont décidé d'aller de l'avant?
Moi, j'ai pas beaucoup de doutes sur l'issue finale de l'histoire. L'issue finale de l'histoire, c'est que, évidemment, ce sont ceux qui sont sur le littoral qui vont l'emporter. Mais il y a une question très importante. C'est que...
Ah, quand même! Donc, à la fin, j'allais dire, c'est les gentils qui gagnent.
Oui, on peut dire ça comme ça. Mais il y a un point très important qu'il faut bien avoir en tête. Monsieur Hulot a, il n'y a pas longtemps, indiqué que la France allait sortir des hydrocarbures. Ouais. Mais nous, on n'a pas d'hydrocarbures. Les États-Unis, c'est la première réserve mondiale de charbon. Les États-Unis, c'est aujourd'hui un pays qui va devenir exportateur de gaz et peut-être demain exportateur de pétrole. Donc c'est très difficile pour les États ou pour les villes qui sont à proximité de ces gisements sous les pieds, qui sont très faciles à exploiter à des coûts très faibles, de prendre immédiatement le train des énergies non carbonées.
Mais alors, comme vous le disiez, effectivement, on est dans un État fédéral, donc il y a les États, et puis il y a effectivement la grosseur des villes. Si on prend un État comme la Californie, qui est quoi, la 6e, 7e puissance mondiale, si on regarde son économie, grosso modo...
La Californie, c'est la taille de l'Espagne en démographie et la taille de la France en économie.
Voilà, donc la Californie a déjà dit qu'elle réduirait ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 et veut même atteindre 4 millions de voitures propres, en gros, c'est leur objectif. Est-ce qu'on a besoin du fédéral pour ça, ou pas du tout?
On a besoin du fédéral pour différentes choses. Premier volet très important, c'est que si la Californie réduit ses émissions, mais que vous avez un effet de bascule et que l'Arkansas ou le Dakota du Nord augmentent en contrepartie les émissions, ça ne va pas le faire. Hein. Donc on aura bien effectivement la Californie qui va atteindre des objectifs. Je rappelle que la Californie n'a pas d'hydrocarbures, n'a pas de charbon dans son sol et qu'elle n'a pas d'industrie automobile. Donc c'est assez facile.
Elle a des voitures, mais elle ne les produit pas.
Oui. Bon, donc je pense que l'État fédéral, il est très important via une agence, qui est l'Agence fédérale de l'environnement, qui édicte des normes. Ce qu'avait fait Obama, c'est qu'il avait propulsé une réforme via l'Agence fédérale pour décarboner le système électrique. Vous avez 40% des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, c'est le système électrique. Si vous n'avez pas des normes fédérales ou des politiques d'incitation économique pour décarboner le secteur électrique, même si la Californie va plus vite que les autres, les États-Unis ne rentreront pas dans une décarbonation suffisante de leur économie.
Alors quand même, on a aussi entendu craquer quelques petites choses aux entournures, notamment après Harvey, après Irma. On entend monter des choses comme celles que vous venez de nous expliquer, notamment au Texas depuis Harvey, notamment en Floride depuis Irma, qui sont autant d'États particulièrement républicains et qui ont particulièrement voté pour Donald Trump. Donc, est-ce que quand même, il y a un contre-pouvoir qui peut s'exercer ou pas du tout ?
Oui, il y a un contre-pouvoir qui peut s'exercer, mais les lignes de fracture ne sont pas toujours aussi simples que républicain-démocrate, puisque un républicain élu de Nouvelle-Angleterre, au nord-est des États-Unis, ou même élu en Californie, vous voyez, l'ancien gouverneur de Californie, peut être très favorable à une politique de décarbonation de l'économie, et un démocrate qui vient du sud des États-Unis peut ne pas aller dans ce sens-là. Je crois que ce qui est important, c'est que, et ce qui est difficile à comprendre depuis l'Europe, c'est qu'aux États-Unis, le climato-scepticisme existe encore. Mmh. Il est très présent au Congrès américain. Le Congrès américain est majoritairement composé d'élus qui sont climato-sceptiques. Des événements malheureux, comme ceux des cyclones, tendent à faire bouger l'opinion publique. Et face à l'opinion publique, quelle que soit la couleur politique de l'élu, il faut répondre aux citoyens lorsqu'ils sont affectés par des cyclones d'une ampleur inconnue, en partie à cause du changement climatique.
Mais alors, à leur échelle, mais pas seulement en fait, est-ce que ça sert à quelque chose du coup, ces réunions comme celle que préside Anne Hidalgo, par exemple, le C40 avec ses villes pour le climat, donc il y a des villes de partout dans le monde, des villes américaines, Paris et d'autres, est-ce qu'au final ça sert à quelque chose, à part montrer que oui, nous
alors,
on est volontaires, mais...
En gros, un peu plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, c'est la façon dont on se transporte, la façon dont on se loge, la façon dont on va à son travail. Les politiques municipales ont un poids extrêmement important pour toutes ces décisions quotidiennes que nous prenons. Donc il est très important que les villes, effectivement, développent des politiques qui, concrètement, vont faciliter la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que ces grands rassemblements permettent d'accélérer les choses ou de faire de la communication? Je dirais...
Un peu des deux, mon capitaine.
Voilà, un peu des deux.
Le grand problème de la sortie des États-Unis et pour lequel les villes ne peuvent pas grand-chose, mais vous allez me dire si c'est le cas ou pas, c'est le fameux fonds vert, effectivement. Si on n'alimente pas le fonds vert, il y a un gros problème avec ces accords. Est-ce qu'on peut imaginer que les États se substituent à l'État fédéral pour alimenter un tel fonds? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a prévu ça? Et est-ce qu'on peut ouvrir cette porte, en fait?
Alors, nul n'interdit à des donateurs privés de donner de l'argent au fonds vert. Hein. Si vous voulez, ou si France Inter veut contribuer au fonds vert, c'est tout à fait possible. Hein. Et je pourrais vous donner
vous savez,
le...
en ce moment.
je pourrais même vous donner le relevé d'identité bancaire. Bon, pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de candidats. Hein. La vérité, c'est que dès qu'on rentre dans le vif du sujet, on voit bien que le retrait de Trump des accords climatiques pose des problèmes immédiats sur le financement l'accord climatique, sur le financement de la recherche. Je rappelle que à peu près 40% de la recherche sur le climat est faite dans des centres américains, des universités américaines. Trump est en train de couper le robinet et ça pose un réel problème.
On parle, ce sera la dernière question, on parle de ville-monde aujourd'hui comme de ville-sanctuaire, mais on en parle pour le climat, on en parle pour l'immigration, on en parle de tout ça comme une manière de remettre en fait la ville au cœur et au centre du processus. Est-ce qu'on s'achemine par là, y compris sur les questions de climat ou pas ?
Je dirais que c'est extrêmement dangereux de se dire que les villes vont pouvoir se substituer aux États, parce que ça déresponsabilise les gouvernements. Je crois que si on veut faire les transformations majeures que requiert la décarbonation des économies, on ne pourra pas se passer de politiques extrêmement vigoureuses qui sont portées à la fois par les villes et par les gouvernements.
Donc on suit en
Donc
tout cas.
Il ne faut pas totalement disculper Trump, si vous voulez. Ce serait trop facile pour lui.
Et on suit en tout cas ces évolutions. Et en partie grâce à vous, Christian de Pertuis. Merci beaucoup. Tiens, j'en profite pour les Parisiens qui nous écoutent que la journée annuelle de la chaire économie du climat de Paris, Dauphine, puisque c'est chez vous, ce sera le 11 octobre prochain. Donc voilà, je vous le dis. Et puis tiens, la sortie aussi du documentaire, la suite du documentaire d'Al Gore qui s'appelle Une suite qui dérange. Preuve que le premier, c'était il y a quoi? Il y a 10 ans?
Un peu plus, oui.
Voilà, ben voilà, preuve qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
On n'est pas sorti de l'auberge. C'est un long processus.
Merci beaucoup.
France Inter, Fabienne Synthès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, dans la rue en Tunisie, à l'ONU, tiens, pour Trump, saison 2, mais rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Grégory Philips a assisté au premier pas et aussi au départ de Trump qui vaut le détour ou le retweet, vous verrez ça dans un instant. Et puis on va au cinéma aussi avec vous, Eva Bétan. Attention, chef-d'œuvre ou pas ?
Un très grand film en tout cas, sur la glaciation des sentiments, très grand film sur la Russie et sur nous tous, pauvres humains.
Et à tout de suite, je vous laisse avec Neil Young.
Look out, Mama, there's a white boat coming up the river with a big red beacon and a flag and a man on the rail. I think you better call John, 'cause it don't look like they're here to deliver the mail, and it's less than a mile away. I hope they didn't come to stay. Got numbers on the side and a gun, and it's making big waves. Daddy's gone and my brother's out hunting in the mountain. Big John's been drinking since the river took Amilou. The powers that be left me here to do the thinking, and I just turned 22. I was wondering what to do, and the closer they got, the more those feelings grew. Rifle in my hand felt reassuring. Cover me with the thought that pulled the trigger. Just think of me as one you never figured. We fade away so young, with so much left undone. Remember me to my love, I know I'll miss her.
Neil Young, Powderfinger dans Un jour dans le monde. Power Hit Radio.
Magic FM.
Terra de la Tula.
Desservi Prispo.
60 Minutes.
Sous les radars, l'actualité internationale qui n'a pas échappé à Florence Paracolos. Résumé en 4 minutes, Florence, sous les radars ce soir, reste un peu aux Nations Unies où nous étions il y a juste un instant, avec un discours passé en revanche complètement inaperçu à la tribune.
Ben oui, parce qu'hier on s'est logiquement concentré sur les prestations de Donald Trump et d'Emmanuel Macron, mais parmi les autres discours des chefs d'État qui se sont succédés à la tribune, celui du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi mérite qu'on s'y arrête. Il a parlé de la situation dans sa région, de la Syrie, de l'Irak, de la Libye. Et puis, il en est venu à ses voisins.
لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية وهي القضية الفلسطينية.
Il est temps, dit-il, de mettre un point final au plus long conflit de la région, qu'est la question palestinienne. Là, le président égyptien déroule son argumentaire pour un État palestinien dans les frontières de 67. Et puis, il sort de son texte pour un véritable appel à la paix. Veuillez m'autoriser à m'adresser directement aux principaux concernés, dit-il, et d'abord aux Palestiniens. Ils doivent s'unir et être prêts à accepter de coexister avec l'autre, avec les Israéliens, dans la sécurité pour tous. Et puis il s'adresse aux Israéliens. Nous avons une bonne expérience de la paix avec vous depuis 40 ans. Cette expérience peut se répéter. La paix et la sécurité pour les Israéliens, la paix et la sécurité pour les Palestiniens. Abd al-Fattah al-Sissi parle également de dépasser la barrière de la haine à jamais. Discours applaudi, vous l'entendez, au moment où le président égyptien essaye de prendre la main sur la diplomatie au Proche-Orient, médiateur dans la réconciliation entre le Hamas et le Fatah palestinien. Il assume désormais publiquement sa relation avec Israël. La veille de son discours à l'ONU, il avait pour la première fois publiquement rencontré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Tout cela suffira-t-il à relancer un processus de paix en panne depuis 2014 et dans lequel Donald Trump, pour l'instant, ne met pas franchement de lien? Nul ne peut le dire, évidemment.
Retour en Guinée. Florence, vous nous parliez la semaine dernière de ce prof de maths qui a réussi à produire de l'électricité dans son village avec un portable et une cascade. Et on se rend compte combien, ce soir, en Guinée, le problème de l'accès à l'énergie est une bombe à retardement.
Pour prof, ces émeutes, il y a quelques jours, à Boké, une ville du nord-ouest du pays, pour réclamer de l'eau et de l'électricité. Leur répression a fait 2 morts. Alors il faut savoir qu'à Boké, on extrait de la bauxite depuis les années 60, ce qui n'empêche pas la ville de manquer d'eau et d'électricité. Il n'y en a plus du tout depuis début septembre à cause d'une panne de la centrale électrique. D'où cette révolte soutenue par Eli Kamano, chanteur militant, qui s'est rendu sur place la semaine dernière. Eli, accueilli en héros par les habitants après son dernier coup de gueule sur Facebook.
Vous qui avez pris ce pays en otage, vous qui ne pensez qu'à vos enfants, à les envoyer dans les universités, dans les écoles les plus chères et les plus modernes de ce monde, vous qui oubliez sciemment la misère, la précarité et la souffrance de votre peuple, il est temps que vous ouvrez les yeux et que vous compreniez que cette souffrance un jour va s'arrêter. Ce jour, le peuple vous mettra dehors.
Avis au président Alpha Condé qui a dépêché 3 groupes électrogènes à Boké en fin de semaine. Depuis, les émeutes se sont déplacées à Kamsar, à quelques kilomètres, toujours pour les mêmes raisons. Fabienne, je crois que vous allez en Allemagne demain.
Absolument. Nous allons à Berlin, par ailleurs. Et ça sent Munich.
Oui. Parce que je sais qu'après, vous allez passer le week-end à Munich, évidemment, Fabienne, comme chaque année, pour la fête de la bière, l'Oktoberfest. Vous serez 6 millions avec vous, donc Fabienne, 6 millions plus vous.
J'ai beaucoup d'amis.
Des millions de litres de bière seront ingurgités, évidemment, pour cette fête de la bière. Et comme la bière, ça coule, et que les vendeurs de baskets sont très forts en marketing, Adidas, la marque allemande, fait la promo d'une paire de baskets spéciales Oktoberfest. Prosit, santé en allemand. Particularité de ces baskets, elles sont étanches pour éviter la bière renversée.
Non, j'ai compris, c'est comme ça.
Et aussi, ce qui se passe après, okay. Parce que évidemment, quand on voit beaucoup trop de bière, d'autres liquides peuvent s'écouler. Je vous les épargne, mais il se peut qu'on vomisse beaucoup à Munich ce week-end. Voilà. Dans la série La matière grise au service du commerce.
Merci beaucoup, Florence. C'est toujours un plaisir.
Mais je vous assure que c'est un argument de vente. Hein.
Absolument.
Je suis désolée.
Voilà. Je vous en prie.
On aurait pu me laisser la musique bavaroise.
Le 18-20.
Allez, nous sommes en Tunisie, dans la Journée Monde. En Tunisie, vous l'entendez dans une manifestation, une des manifestations qui a suivi le dernier remaniement ministériel. La Tunisie qui a la lourde responsabilité d'être une sorte de laboratoire de la démocratie, la seule réussite du printemps arabe, mais qui doit souvent veiller à ce qui se passe dans son parlement, aussi son gouvernement. Bonjour Maureen Mercier.
Bonjour.
Maureen, vous êtes notre correspondante à Tunis et les Tunisiens. Si les Tunisiens battent le pavé, c'est à cause de ce dernier remaniement, donc énième remaniement, qui cette fois signe le retour des Ben Ali, comme m'ont dit, un membre sur cinq de ce nouveau gouvernement a occupé des fonctions importantes sous le régime Ben Ali. Et évidemment, ça plaît pas à tout le monde, Maureen.
Oui, d'autant plus que deux jours après que l'Assemblée parlementaire a donné la confiance à ce gouvernement, cette même Assemblée a validé une loi qui amnistie les fonctionnaires ayant participé à la corruption sous Ben Ali. La loi sur la réconciliation administrative. Et pour les Tunisiens qui ont fait la révolution, c'est un retour en arrière franchement inquiétant.
Alors on comprend combien il y a de l'électricité dans l'air. On écoute votre reportage, Maureen, et on se retrouve juste après.
Le régime de Ben Ali, il est en train de revenir et revenir avec force. C'est inadmissible, quoi.
Ces manifestants se mobilisent contre la loi d'amnistie des fonctionnaires, défendue par le président en personne. Pour eux, le retour des Ben Alistes au gouvernement, validé par l'Assemblée la veille, est une provocation supplémentaire.
On doit faire une autre révolution, plus dure, pour arracher donc ces criminels. En un mot, ils sont des criminels.
Sur les t-shirts, Menichem Sema, nous ne pardonnerons pas. Les manifestations se succèdent d'abord sur l'avenue Bourguiba, puis devant le bâtiment de l'Assemblée parlementaire. Les jeunes qui ont fait la révolution maintiennent jusqu'au bout la pression, jusqu'au moment du vote. Rania, 23 ans, elle a fait la révolution lorsqu'elle était lycéenne. Elle bat aujourd'hui à nouveau le pavé, plantée devant les grilles de l'Assemblée.
On considère que la loi est contraire au principe de la révolution, donc on va revenir 10 pas en arrière.
À l'intérieur, dans l'hémicycle, cela fait des années qu'on n'avait pas connu de séance aussi houleuse. Pour protester contre la loi, l'opposition chante l'hymne national et tape sur les tables. Le leader du Front populaire, Ahmed Seddik.
Il faut éveiller l'attention de tout le monde de la gravité de tout ce qui se passe. Hier, un nouveau gouvernement dont il figure 5 à peu près ministres et secrétaires d'État qui étaient des ministres de Ben Ali. Maintenant, c'est le deuxième pas. Pourquoi les amnistier ? Cette loi, c'est un retour camouflé de l'administration de Ben Ali. Il faut éveiller tout le monde de la gravité de ce qui se passe.
L'agitation est telle que la séance est suspendue et sa collègue Samia Abou ne décolère pas.
On est là pour dire non, non, non. Pourquoi Monsieur le Président a proposé cette loi ? Elle nous conduit sur une politique pourrie, d'un État pourri, d'un système pourri. Malheureusement, ce projet de loi il est venu pour protéger les mains droites de la corruption. Pour protéger le système. Si cette loi passera, ça sera la catastrophe et ça va préparer à une deuxième révolution. Mais la deuxième révolution, elle sera pire.
Dehors, les manifestants continuent à se mobiliser. En vain, la loi passe haut la main. Le parti du président Nida Tounes, allié aux islamistes, la soutiennent. Leur argument, ces fonctionnaires ont dû signer des papiers sous la pression de leurs supérieurs. Et aujourd'hui, le pays a besoin de leurs compétences. Hatem Raad, politologue.
Vous savez qu'on est en train de se les arracher, hein, les anciens, parce qu'ils ont des réseaux et on a besoin d'eux pour les élections. Tous les partis politiques, ils ont recruté des membres de l'ancien régime, sauf les islamistes, tous les partis politiques.
Ce week-end encore, 3 jours après le vote de la loi, 1000 manifestants se sont réunis pour réclamer son retrait, avenue Bourguiba.
Après une révolution, on doit tout corriger, mais nous on n'a rien corrigé, donc moi personnellement je travaille, je suis bien installé, je travaille très bien, et si la loi passe, je vais quitter mon travail et descendre dans la rue. Le système il est en train de revenir en arrière, mais nous comme peuple on est en train d'avancer, on n'a même pas peur de la police là, et on va défendre nos intérêts jusqu'à la fin, parce que c'est nous l'avenir, sincèrement.
Maureen Mercier, les mots ont un sens. Hein. On a entendu refaire la révolution, deuxième révolution dans votre reportage. Alors, révolution ou pas révolution ?
Selon les spécialistes, il n'y a aucune raison que les choses s'arrangent dans les mois à venir. Mais les Tunisiens tiennent aussi compte de leur expérience. Dans la foulée de la révolution, ce sont les islamistes d'Ennahda qui ont accédé au pouvoir. Alors, demandez à une femme tunisienne, certes, elle condamnera les manœuvres actuelles du gouvernement, mais elle vous dira non, pas de nouvelle révolution. À choisir entre le
retour d'anciens bénalistes et le retour des islamistes, elles préféreront souvent les bénalistes.
Alors, donc pas de révolution, égale calme plat, c'est peut-être plus compliqué que ça.
Ces dernières semaines particulièrement, les jeunes qui ont fait la révolution ont vraiment l'impression que le gouvernement se moque d'eux. Hein. Mais l'étincelle qui ferait s'embraser le pays, si ça devait se faire, elle serait déclenchée plus par des facteurs économiques que politiques, comme ce fut le cas d'ailleurs en 2011. Or, les gens sont conscients qu'il vaut mieux miser sur la stabilité pour enfin relancer l'économie. Mais quoi qu'il en soit, bien malin celui qui peut prédire quoi que ce soit, la première révolution, personne ne l'a vu venir, je ne vais pas prendre le risque de faire le moindre pronostic.
Voilà, et c'est pas ce qu'on va vous demander. Une dernière question avant de vous laisser, est-ce qu'il y a à l'inverse un risque de résurgence du système autoritaire, comme s'en inquiètent d'ailleurs certains des Tunisiens qu'on a entendus?
Ce que les Tunisiens ont gagné avec la révolution, c'est la liberté d'expression, et vous l'avez entendu, hein, ils savent en faire usage. Le régime aujourd'hui est un régime parlementaire, ce qui limite aussi les risques. Mais le président a émis récemment le souhait de basculer à un régime lui donnant davantage de pouvoir. Donc oui, il faut rester très attentif.
Maureen, merci. On le restera en tout cas grâce à vous. Merci beaucoup. À Tunis pour un jour dans le monde. On ne quitte pas le pays. On ne quitte pas le pays. Tiens, avec l'une des égéries de la révolution de 2011. Je vous dirai après qui c'est.
لقيتهم يخافوا من كل شيء كان من ربي هو ساكن في عظامه سكت عيشته علمهم في الكراس غرسوا
Elle s'appelle Emel Matlouti, le titre s'appelle Elma, une égérie donc de la révolution de 2011 qui avait chanté pendant les grandes manifestations.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you it's going to change.
Un jour dans le monde.
L'actu en série le mercredi, c'est Trump saison 2, on l'entend beaucoup, dites donc celui-là en ce moment. Bonsoir Grégory Philips.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Grégory, on n'a pas tout à fait quitté les Nations Unies ce soir puisque vous êtes encore à New York. Un dernier mot quand même sur les premiers pas de Trump dans ce club des dirigeants du monde entier alors.
Oui, alors vous l'avez dit, on en a beaucoup parlé sur l'antenne d'Inter, donc je ne vais pas vous refaire Rocketman et les menaces de destruction complète de la Corée du Nord. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment la presse internationale avait perçu le discours de Trump. Il y a évidemment ici des journalistes du monde entier pendant cette Assemblée générale des Nations Unies. Tenez, je vous présente Cathy Kay. Elle est correspondante aux États-Unis de la BBC internationale. C'est un visage qu'on connaît ici parce qu'on le voit souvent à la télé dans les émissions politiques Morning Joe ou Meet the Press. Et voici donc ce que Cathy Kay a pensé du premier discours de Donald Trump hier face aux dirigeants du monde entier.
S'il y avait des gens qui pensaient que Donald Trump allait venir à l'ONU et donner un discours qui était plutôt diplomatique, ils ont eu tort.
Rocket Man is on a suicide mission for himself
and for his regime.
Il est arrivé, c'était quelque chose de très sévère, je trouvais. C'était très strict, c'était très clair que les États-Unis allaient se mettre en premier, que ce qu'il fallait, ça fallait pour les nations, surtout pour les États-Unis, c'était la puissance. C'était en fait le populisme pour les affaires étrangères.
I will always put America first.
C'est ce qu'on a entendu, c'est ce que j'avais entendu quand j'ai suivi les élections. J'entendais toujours ça sur le plan national. Ça, c'était sur le plan international. Mais c'était la même chose. Les États-Unis se sont fait avoir. C'est ça, sa politique internationale, c'est ça. Les États-Unis se sont fait avoir dans le passé et ça va plus se faire comme ça sous moi. On entendait un peu les échos de Bush dans ce discours, le fait, les access of evil. Mais avec Bush,
l'accès du mal.
Mais avec Bush, c'était les droits de l'homme, c'était la démocratie, c'était l'idée des États-Unis dans le monde. Là, ça n'avait rien à voir. Il n'a même pas parlé des droits des hommes.
Donc, Grégory, on entend bien le America First, nationalisme appliqué à la politique étrangère. C'est ce que vient de nous expliquer Cathy Kay. Mais comment ça s'applique? Exactement. Comment ça marche?
C'est compliqué parce qu'effectivement, il vient défendre l'Amérique d'abord dans le temple du multilatéralisme aux Nations Unies. Et on a entendu d'ailleurs Emmanuel Macron qui s'opposait à cette vision. Donc, je suis allé voir Dick Howard. Il est professeur de sciences politiques ici à l'Université de New York, à NYU. Et j'ai demandé tout simplement comment appliquer cette doctrine patriotique, America First, à la politique internationale des États-Unis.
Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le nationalisme dans un monde globalisé? Là, c'est la grosse question. Est-ce que ça veut dire ignorer le monde ou est-ce que ça veut dire s'imposer comme jadis on le faisait, par exemple, dans la foulée du plan Marshall et que sais-je encore? Donc là, c'est une question que je me pose, mais on ne sait pas. On ne sait pas à quoi s'attendre avec cet homme.
Allez, voilà, on ne sait pas à quoi s'attendre, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, voilà donc ce qui s'est passé, Grégory, aux Nations Unies hier. Et donc, en sortant du bâtiment de l'ONU, Trump a tweeté à plusieurs reprises, évidemment, pour relayer son discours, et puis pour s'en prendre violemment, décidément on ne le refait pas, à la cérémonie des Emmy Awards, qui avait eu lieu la veille, c'était dimanche soir. Racontez-nous pourquoi il est si en colère.
Oui, on aurait pu penser qu'en sortant des Nations Unies, les tweets auraient été, disons, un peu sérieux et diplomatiques. Et puis, il y a donc ce tweet qui dénonce la cérémonie des Emmy Awards, les Oscars de la télévision ici aux États-Unis, et qui se félicite de la très mauvaise audience de cette émission télé. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que Donald Trump, dimanche soir, sur la plupart des chaînes de télé, a été, et pendant cette cérémonie, la cible de l'animateur Stephen Colbert, de tous les récipiendaires. On a compté combien de fois Trump a été cité et moqué pendant l'émission. 21 fois. Donc visiblement, il n'a pas du tout apprécié. Il le dit dans un tweet aujourd'hui. Et puis, Trump a été évoqué dans cette cérémonie dans un moment très particulier. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, Fabienne. À un moment donné de la cérémonie, Stephen Colbert appelle sur scène Sean Spicer. Mmh, vous savez, l'ancien porte-parole de la Maison Blanche, régulièrement moqué dans les late shows américains. Et c'est le vrai Sean Spicer qui arrive sur scène. Écoutez.
Sean, do you know?
Ce sera la plus grande audience à avoir suivi les Emmys, point, que ce soit sur place ou dans le monde.
Voilà, on est complètement dans l'abîme puisque Sean Spicer se moque de lui.
On est dans la mise en abîme, de la mise en abîme, de la mise en abîme.
Exactement. Et je peux vous dire qu'ici, ça a provoqué des réactions assez contrastées. Il y a ceux qui ont trouvé ça assez marrant, assez drôle de voir Spicer se moquer de lui-même. Et puis d'autres qui ont trouvé que c'était maladroit de mettre dans la lumière l'un des personnages clés et sans doute les plus controversés du début du mandat de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Ben voilà, vous voyez, moi, Grégory, je suis un peu dans l'équipe 2, moi aussi, dans ceux qui pensent que c'était peut-être un peu limite. En tout cas, Trump saison 2, merci beaucoup, Grégory. On en fera une série sans doute un jour de ce garçon qui sera récompensé, allez savoir, aux Emmy Awards. Allez, à très vite.
France Inter. Un jour dans le monde.
Le rendez-vous cinéma d'un jour dans le monde avec vous, Eva Béton. Bonsoir Eva.
Bonsoir.
Eva, vous avez adoré Faute d'amour du grand cinéaste russe dont vous allez prononcer le nom.
Andrei Dzyakintsev.
Voilà, un grand film, une claque aussi, une claque morale même, c'est ce que vous dites. Le film a remporté le prix du jury du Festival de Cannes. Beaucoup pensaient d'ailleurs, dont vous, qu'il aurait mérité bien mieux. C'est un film inter, je voudrais le dire au passage.
Oui.
On écoute la bande-annonce.
Oui.
Et on se retrouve après.
Господи.
Алёша Слепцов, 12 лет, рост приблизительно 1 метр 50 сантиметров, здоров, без особых примет.
Alors, un couple divorce, qui va garder l'enfant? Ça paraît très simple au démarrage. Hein,
oui, mais surtout, la seule différence, c'est que la personne n'en veut.
Voilà.
Et alors, vous imaginez ce qu'aurait pu être le film, un truc larmoyant avec des remords, parce que l'enfant disparaît. Ou un suspense, ou je ne sais quoi, ou un film policier. On est chez un des plus grands cinéastes qui soit. Et c'est un acte radical qui est posé. Et après, on entre dans un inconnu. Comme ses parents, dans l'inconnu, nous entrons dans un inconnu du cinéma. C'est un cinéaste qui a une puissance d'évocation extraordinaire. Il n'est jamais dans l'anecdote. C'est-à-dire qu'on arrive à des questions de fond, des questions morales. Il n'est pas directement politique. Il l'était plus dans son film précédent, Léviathan, mais il est ancré en permanence. Ses parents, ils sont dans une Russie d'aujourd'hui. Vous voyez des images de propagande à la télévision, où il y a des rapports agressifs entre tous les gens et où les gens eux-mêmes ont changé, où il y a une sorte de glaciation des sentiments. C'est un film universel et c'est en même temps un film totalement russe, comme tous les grands films qui sont toujours ancrés quelque part. Et on a l'impression, nous, de l'extérieur, voyant ce film, que ces Russes, entre la Russie autoritaire de Poutine d'un côté et le capitalisme de l'autre, ils sont comme une manière d'être nous en pire, en quelque sorte. Et c'est cette question que j'ai posée à Dzyakintsev.
On écoute.
Ça m'est
difficile de savoir si c'est effectivement quelque chose qui serait plus aigu chez nous, parce que je ne connais pas votre manière de vivre ensemble. Moi, ce que j'observe, évidemment, c'est ce qui se passe en Russie. Et je n'exclus pas que vous ayez raison, que peut-être que les formes auxquelles on est confronté, nous, en Russie, sont plus aiguës que les vôtres aujourd'hui. On a été jetés dans une nouvelle manière de vivre autour de 1991. Donc, vous voyez, il s'est écoulé quasiment 25 à 27 ans. Dans ce capitalisme comme ça, quasiment pratiquement du jour au lendemain, il nous a fallu revoir toutes nos valeurs. On nous a fait douter des valeurs qu'on nous avait inculquées auparavant. Il a fallu qu'on revoie également toutes les relations interpersonnelles. Et je pense que mes trois derniers films témoigne de cela. Sans doute que Faute d'amour est peut-être considéré comme un film moins politique que les précédents. Néanmoins, si on peut appeler ça de la politique, le fait que je montre ces volontaires, ces bénévoles, qui, sans espoir de retour sur quoi que ce soit, offrent leur temps et qui le déposent sur l'autel du malheur des autres, je pense que c'est là qu'on voit qu'il y a une initiative citoyenne, qu'il y a une renaissance d'un certain républicanisme où les citoyens, observant que l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire, se prennent en main pour avancer. C'est peut-être là le fait politique.
À un moment donné, on voit des images à la télévision. Qu'est-ce que c'est que ces images? Ce sont des images réelles? Qu'est-ce que c'est que ces images?
Ce sont des vraies images d'actualité que nous avons achetées à Russie à 24. C'est un reportage même que j'ai choisi du, sans doute, on va dire, le plus grand propagandiste de la télévision russe aujourd'hui, qui s'appelle Dmitri Kisilyov, qui chaque semaine fait son journal télévisé sur ce qui s'est passé durant la semaine. Et il raconte, évidemment, de son point de vue, ce qui s'est passé en Ukraine, ce qui s'est passé en Russie, ce qui se passe dans le monde. Et ces images-là, telles que vous les voyez, ce ne sont que des petits exemples de ce qui est déversé chaque semaine, chaque jour, par les chaînes de télévision russes, par saut entier, j'allais dire par barrique entière de propagande qui nous tombe dessus. Donc il se trouve que sur chacune des chaînes, il y a un propagandiste. Sur la première chaîne de télévision, par exemple, il y a un monsieur qui s'appelle Soloviev, et c'est lui qui fait la propagande de cette manière-là. Moi, ça fait pratiquement une dizaine d'années que j'ai éteint la télé.
Ça s'appelle Faute d'amour, Eva, c'est un film inter, oui, ça sort aujourd'hui.
Oui, et vraiment... Vous verrez la réaction que vous aurez.
Et Sylvie Kaufmann, qui vient d'entrer dans le studio, est d'accord avec vous. Ça veut dire que tout le monde est d'accord alors, sur ce film. Et bonsoir Sylvie.
Bonsoir Fabienne.
L'édito du Monde, grand cinéaste, ben tant mieux. L'édito du Monde, bon choix Eva, vous revenez mercredi prochain. Ce soir, vous nous emmenez Sylvie au Moyen-Orient et dans le Golfe, très précisément.
Oui, parmi les dirigeants de ce monde ou parmi ceux qui aspirent à le devenir, on tombe parfois sur des personnalités originales. Nous avons déjà parlé ici du géorgien Mikhail Saakashvili et du britannique Boris Johnson. Ce soir, nous nous intéressons à Mohammed bin Salman, le nouvel homme fort du royaume d'Arabie Saoudite. Pour faire simple, on va l'appeler comme les Saoudiens par ses initiales MBS. Il y a quelques mois, MBS a fait un bond spectaculaire dans l'ordre de succession lorsque son père, le vieux roi Salman, dont il
n'est que le septième fils et de sa troisième épouse, l'a décrété prince héritier. À 32 ans, il était déjà le plus jeune ministre de la Défense du monde. Le voilà maintenant aussi premier vice-premier ministre. Bref, il tient désormais les rênes du pouvoir.
Et donc, qu'est-ce qu'il en fait, ce pouvoir, réformateur ou dictateur ?
C'est précisément la question qui agite tous les partenaires de ce très gros producteur de pétrole qui, vous le savez, est une puissance économique et politique de premier plan au Moyen-Orient. MBS est d'abord présenté comme un grand réformateur, l'homme nouveau qui veut moderniser et transformer ce pays religieux et profondément conservateur. Pour cela, il a mis sur pied un ambitieux agenda pour 2030 qui a beaucoup impressionné. Mais comme partout, il ne suffit pas d'assurer, il y a aussi l'envers du décor et il est moins séduisant. Il ne suffit pas d'assurer à l'oreille des Européens que les femmes auront bientôt le droit de conduire des voitures et qu'on arrêtera d'exécuter les gens en leur coupant la tête. Il y a en toile de fond la guerre au Yémen, où les forces saoudiennes, prétextant une ingérence iranienne dans les insurrections yéménites, ont entraîné d'autres pays du Golfe dans une campagne de bombardement impitoyable contre les villes, qui sont en train de provoquer une catastrophe humanitaire avec notamment une épidémie de choléra.
Et puis il y a le contentieux avec le Qatar aussi.
Absolument, c'est l'autre gros problème. En juin, un mois après la visite de Donald Trump, qui a totalement boosté les Saoudiens dans leur rivalité avec l'Iran, l'autre grande puissance régionale, l'Arabie Saoudite et trois autres pays arabes, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et Bahreïn, ont rompu les relations avec le Qatar et instauré un blocus de ce petit émirat. La raison officielle, c'est que Riyad accuse le Qatar de soutenir des groupes terroristes et extrémistes islamistes. La vraie raison, sans doute, c'est que l'Arabie Saoudite a pris ombrage des ambitions du Qatar, de son activisme international, notamment grâce à la chaîne de télévision Al Jazeera et de ses velléités de rapprochement avec l'Iran.
Et alors, est-ce que, Sylvie, ce différend est en voie de règlement ?
Au contraire, l'impasse est totale. Une tentative de médiation américaine, puis une koweïtienne viennent d'échouer. Le problème pour le prince héritier saoudien, c'est que même si l'économie du Qatar souffre durement de ce blocus, c'est ce pays, le Qatar, qui est en passe de gagner la bataille de l'image. Du coup, le régime de MBS est en train de se durcir. Ces derniers jours, il a fait arrêter près de 30 dissidents et intellectuels saoudiens. Et que leur est-il reproché ? De ne pas soutenir la ligne dure de Riyad à l'égard du Qatar. Cette semaine, le Financial Times croit savoir que l'Arabie Saoudite va lancer une grande campagne de relations publiques en Europe et en Asie. Si MBS veut toujours passer pour un moderne, en effet, il en aura bien besoin.
L'édito de Sylvie Kaufmann du journal Le Monde dans Un jour dans le monde, le 18-20 continue sur France Inter.